Lundi 18 mai 1925. Enfin, je lance la fusée verte. Elle ne me paraît pas monter bien haut et ne brûle que pendant quelques secondes avant de retomber en décrivant un arc de cercle et d'atterrir sur la pente où elle s'éteint avec un dernier sifflement. Puis je m'écroule à côté du cadavre. Mes jambes refusent de me porter plus longtemps, bien que j'ignore si c'est à cause de mon excitation ou de mon épuisement presque total. C'est forcément Bromley ou Kurt Meyer. Du moins l'ai-je cru lorsque j'ai contemplé le cadavre quelques minutes plus tôt. Puis, remarquant les bandes molletières déchirées et effilochées sur les mollets, j'en ai déduit que l'homme devait être britannique. Les Allemands et les Autrichiens n'escaladent pas avec des bandes molletières. J'ai trouvé Percival Bromley. C'est alors que j'ai tiré avec le pistolet de détresse. Même après avoir retiré moufles et gants, j'ai failli faire tomber la cartouche verte tant mes doigts étaient raidis par le froid et le choc. Après avoir rangé le pistolet, je me suis aperçu que mes genoux n'étaient pas loin de flancher et que je ferais mieux de m'asseoir. À cause des deux bouteilles d'oxygène et de quelques objets fragiles dans mon sac à dos, je ne m'assois pas dessus comme je le fais habituellement en montagne. En quelques minutes, le froid spatial du granit sur cette face nord de l'Everest traverse les couches de soie, de coton, de laine et de duvet d'oie. Et je le sens sur mes fesses, mes cuisses et mes jambes. Je ne tarde pas à être frigorifié. Après les bandes molletières, je remarque les knickers de laine en lambeaux et la veste Norfolk du cadavre, ce qui me conforte dans l'idée qu'il doit s'agir de Percival Bromley. Ses longs doigts fins sont enfoncés dans les cailloux gelés et sa tête à moitié enfouie sous les éboulis. Pour l'heure, je n'ai aucune envie de voir le visage du mort. Et l'idée que, répondant à mon signal de détresse, Reggie sera là dans quelques minutes et découvrira son cousin bien-aimé m'est insupportable. Pour partie, je ressens de la gêne. Le cadavre est encore vêtu, même si ses vêtements sont déchirés par endroits, et relativement intact, si l'on excepte l'os visible de la jambe droite cassée, la fracture classique au-dessus de la botte, je pense. Mais les goraks ont attaqué ses fesses qui sont complètement exposées. Les oiseaux, gorak signifie corbeau en tibétain, mais je suppose qu'il s'agit d'une espèce voisine des craves des Alpes, s'en sont pris au rectum de ce pauvre Lord Percival et ont commencé à dévorer ses intestins. J'envisage de poser ma veste sur ce spectacle obscène comme on couvre le visage d'une personne brutalement morte dans une rue de Londres ou de New York, mais je tremble déjà de froid. Je sais que je devrais retirer mes crampons, me lever et taper des pieds pour activer ma circulation sanguine et marcher pour me réchauffer un peu. Dans une minute. Les mains du cadavre ont une couleur brun foncé inhabituelle. Un instant, je me demande si c'est le résultat de la décomposition, puis je réalise que c'est le même bronzage que nous avons, JC, le diacre, Reggie et moi. Après plus de 5 semaines passées à traverser le Tibet, puis à transporter des charges sur l'auge et le glacier. Les UV, à haute altitude, ont tôt fait de brunir les peaux blanches. Je remarque aussi qu'il n'y a aucune trace de gelure sur la peau à nu, pas même sur la colonne vertébrale et les épaules que l'on voit à travers les vêtements déchirés. Des épaules larges et très puissantes. Je n'avais pas réalisé que le cousin Percy était un tel athlète. Les cadavres n'ont pas de gelure, Jake. Seuls les vivants en souffrent. Je sais ça. Mon cerveau fonctionne encore, quoique au ralenti. Les pensées et les réflexions m'arrivent à retardement, un peu comme les échos étouffés d'explosions lointaines. Bromley a la jambe gauche croisée sur la droite, juste au-dessus de la terrible fracture qui laisse apparaître de l'os blanc et des restes déchirés de ligaments à demi momifiés. Il était en vie quand il est arrivé ici, me dis-je. Assez longtemps, en tout cas, pour croiser sa bonne jambe sur l'autre dans une tentative de soulager la douleur. Un haut le cœur me saisit à cette pensée et je tire sur mon masque à oxygène, m'apprêtant à vomir. L'envie passe très vite. Je me rends compte que je me comporte comme un enfant. Comment me serais-je débrouillé si j'avais eu l'âge de servir dans un régiment américain pendant la Grande Guerre? ces jeunes types avaient passé presque une année entière au milieu de corps en décomposition et d'hommes agonisants. Et alors, répond la partie la plus consciente de mon esprit, c'est seulement ce pauvre Percival Bromley. Tu n'as jamais été soldat, Jake. Par la déchirure de sa veste Norfolk, je vois que le jeune Bromley portait 7 ou 8 couches de vêtements. Un anorak réduit en lambeaux par une année de vent froid, la veste en laine, au moins 2 pulls, plusieurs épaisseurs de coton et de soie. Ce que j'avais pris en le voyant par les jumelles pour un crâne chauve et brun se révèle être un casque en cuir de moto, assez semblable au bonnet d'aviateur que je porte. Étrangement, les quelques mèches de cheveux visibles sous le casque déchiré sont d'un blond presque blanc sur les pointes, mais brunes plus près des racines. Les hommes se teignent-ils parfois les cheveux comme le font les femmes? Je ne vois pas de lanière de lunettes de ce côté de sa tête. Il a manifestement lutté et réussi à arrêter sa glissade juste avant de basculer dans la pique, à moins de 20 mètres en dessous de nous, et ses bras sont dans la position classique de l'arrêt d'urgence que tente en dernier recours un alpiniste qui a perdu son piolet. Je lève les yeux vers la pente, mais ne l'y vois pas, pas plus que la botte manquante à son pied gauche. Le mouvement qui, le premier, a attiré mon attention vient d'un enchevêtrement de cordes. Elle est beaucoup trop serrée autour de la taille de Bromley, enroulée et emmêlée autour de son épaule gauche, et son extrémité rompue, je le vois à ses brins effilochés, bat dans le vent. Bruno Siegel a affirmé que Bromley était encordé à Kurt Meyer quand l'avalanche les avait emportés tous les deux. Finalement, l'Allemand devait dire la vérité. Mais l'avalanche ou la violence de la chute a rompu la corde. Dieu seul sait où Kurt Meyer a pu atterrir. Une fois encore, j'examine la pente au-dessus de moi, mais je ne vois ni Autrichien mort, ni mes amis venant me rejoindre. Devrais-je tirer les deux autres fusées? Peut-être n'ont-ils pas vu la première, elle n'a brûlé que quelques secondes. Je décide d'attendre. Mes mains ne se sont toujours pas réchauffées. Soudain, il y a un mouvement, mais ce n'est pas quelqu'un qui arrive d'en haut. C'est un petit homme en veste Shackleton qui traverse la face en provenance de l'est pour venir dans ma direction. Ça doit être Kurt Meyer. Il a réussi, Dieu sait comment, à survivre à la chute, et il attend depuis tout ce temps que quelqu'un les retrouve, Bromley et lui. Ou alors, Meyer a péri ici lui aussi, et son corps momifié vient me parler. À moins que ce ne soit simplement le fantôme de Percy Bromley. C'est ma toux et mes halètements, non pas mes délires, qui me font comprendre que je suis en manque d'air anglais. Je remets le masque et règle la valve sur le débit de 2,2 litres par minute. Mes idées s'éclaircissent presque aussitôt. Juste avant que la silhouette emmitouflée et chaussée de lunettes m'ait rejoint, je reconnais Jean-Claude. Grâce à l'oxygène, il ne me faut que 30 secondes pour me souvenir qu'il devait monter au camp 5 avec un groupe de Sherpas aujourd'hui. Il a dû voir la fusée verte. Je me lève, vacillant légèrement, et prends appui sur mon piolet, pendant que Jean-Claude contourne avec précaution le cadavre, puis m'étreint. Il retire son masque, et nous regardons tous les deux le mort. « Mon Dieu !» dit Jean-Claude. Je baisse mon propre masque pour pouvoir parler. « C'est Bromley, » dis-je. « Vous voyez les bandes moltières, j'y sais. C'est un Britannique. Vous voyez la jambe droite cassée? Il y a probablement d'autres blessures qu'on ne distingue pas sous cet angle. Mais je ne pense pas qu'il ait pu tomber d'aussi loin que l'arête nord-est et, enfin, être en un seul morceau comme ça. Et sûrement pas de l'arête nord, bien trop de à l'ouest. Il aurait été presque au deuxième ressaut, le long de la ligne de crête. Il n'y a pas d'avalanche à cet endroit. J'ai trop parlé et trop peu respiré. Pris d'une quinte de toux sèche, je dois remettre mon masque et me plie en deux jusqu'à ce que ça passe. Sa jambe droite présente aussi d'autres fractures, dit J.C. Et son coude droit paraît cassé, ou au moins déboîté. C'est le côté droit de ce pauvre type qui a le plus souffert de la chute. Jean-Claude s'interrompt, se protège les yeux avec sa main, il soulève ses lunettes pour mieux voir ce que je n'ai pas encore pensé à faire, et examine la pente au-dessus de nous. Mais vous avez raison, reprend-il. Il y a plus de 300 mètres jusqu'à l'arête nord-est. Il n'est pas tombé de si loin. Peut-être de ces rochers sous la bande jaune. Votre analyse médico-légale est assez juste, mais je crains que vous ne vous trompiez sur un point, mon ami.
Lequel ? Je me remets à tousser puisque le mécanisme qui permet de réinspirer à l'intérieur du masque n'est pas adapté à la parole humaine. Je baisse le foutu machin.
Lequel ?
Au lieu de me répondre, JC pointe le doigt vers l'amont. Trois silhouettes encordées, passant en tête, suivies de Reggie puis du diacre, descendent lentement la pente en s'aidant de leurs longs piolets. Ils ne sont plus qu'à 18 mètres de nous. J'aurais dû me douter que le diacre, toujours prudent, aurait pris le temps de les faire s'encorder avant de répondre à ma fusée de détresse.
En quoi je me trompe ?
J.C. se contente de secouer la tête et s'écarte pendant que nos trois amis nous rejoignent et se placent en demi-cercle autour du cadavre pour mieux le voir. Aussitôt, je m'en veux de ne pas avoir retiré au moins mon anorak Shackleton pour couvrir le derrière et les intérieurs de Lord Percival, attaqué par les Goraks. À présent, la pauvre Reggie doit supporter la vue épouvantable de celui qui était pour elle comme un frère.
« Je suis désolé, Reggie, »
dis-je, sentant des larmes monter sous mes épaisses lunettes au vert teinté. C'est peut-être le vent froid qui me pique les yeux. Elle retire son masque à oxygène et m'adresse un regard interrogateur. Elle a relevé ses lunettes.
« Je suis désolé que vous deviez voir votre cousin dans cet état. »
En cet instant, je regrette d'avoir été celui qui l'a découvert. Elle penche la tête de côté, regarde les trois autres hommes, puis ses yeux reviennent se poser sur moi. Tous me dévisagent à présent.
« Ce n'est pas Percival !»
dit Reggie, obligé d'élever la voix pour se faire entendre par-dessus le vent de plus en plus vif. Par réflexe, je fais un pas en arrière. Mes crampons glissent sur quelque chose et je dois m'appuyer sur mon piolet pour ne pas tomber. Je rappelle à mon corps que quelques mètres seulement nous séparent de la pique et de l'oubli définitif. Je nage en pleine confusion. C'est un alpiniste britannique, de cela je suis sûr. Si ce n'est pas son cousin...
Je reconnais ses larges épaules et ses bottes d'alpinisme vertes,
dit Reggie.
Percival est beaucoup plus mince et sa carrure beaucoup moins développée. Et il n'a jamais eu de bottes vertes. Jake, je suis presque certaine que vous avez retrouvé George Leith Mallory.